Ce podcast a été enregistré à Podcastre
pour les 10 ans de Podrenne,
le festival de podcast.
Plus d'informations sur madgeek.fr.
Une bande de trolls diaboliques sans aucun respect ni aucune considération.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur en direct de Castres. C'est la première fois que l'on est en public. Public ?
Ça fait tellement bizarre.
Nous sommes en plein podcast. Ce n'est pas un jeu de mots, quoique si. Il faut le dire trois fois très vite, Stéphane.
Je ne peux pas.
C'est la
pas
première édition du festival organisé par Bad Geek. Alors, qu'est-ce que Serial Causeur ? C'est un podcast série qui existe depuis 2014. Nous en sommes à la saison 10 et c'est l'émission 3 à laquelle vous assistez. Alors, on cause de séries, les bonnes, les mauvaises et les oubliées. Je vous présente les habitués du podcast depuis plusieurs saisons. Maintenant, il a beau regarder beaucoup de séries, il revient toujours à The Good Place, c'est Maxime. Maxime, devant toi, tu as un micro, ça ressemble à ça.
Oui, je sais, t'as pas l'habitude, ouais.
Elle a la plus grande collection d'autographes de bons acteurs de Firefly, c'est-à-dire trois. C'est à qui ?
Bonjour.
Tu es une adepte de convention, alors quelle est la dernière célébrité que tu as approchée ?
Ah oui, tu me prends on the spot. Alors, je pense que c'est Nathan Fillion, en vrai.
C'est pas Alyssa Milano ?
Ah oui, si, c'est vrai, j'avais oublié celle-ci.
Comment
j'ai fini
charme,
ma
compte, voilà.
Tout à fait.
Il regarde toutes les séries, même Love Island, c'est Stéphane. Oui.
Bonjour.
Stéphane, ça fait quoi d'être dans l'est du pays, toi qui es de Toulouse ?
On sent pas encore la mer, c'est bizarre. Voilà.
Et je suis Tom, celui qui parle plus de séries qu'il n'en regarde. Alors, au programme de cette grande heure sur les séries, on va parler un peu de la durée de vie d'une série, non pas de leur début et de leur fin, mais plutôt de leur quotidien, de la façon dont elles durent, de comment elles font pour ne pas être juste une bonne idée déclinée sur une poignée d'épisodes, car une série, c'est là pour durer. Normalement, une série n'a pas de fin, proprement parlé. C'est une œuvre qu'on industrialise chaque saison pour qu'elle soit là pour le public, qu'elle soit régulière. Mais l'évolution a voulu que les séries deviennent événementielles, plus ou moins régulières et surtout plus ou moins longues. Alors, on va sûrement parler des séries qui ne sont pas que des longs films découpés, mais aussi de séries devenues quasi immortelles. Mais c'est devenu rare après 10 saisons, ça on le sait, on nous oublie. On devient une habitude, mais ce n'est pas forcément négatif. On devient un beau compagnon de route avec ses qualités et ses défauts, n'est-ce pas Stéphane ? On peut dire aussi qu'on a sûrement évolué plus ou moins bien, n'est-ce pas Stéphane ? Il faut savoir cultiver sa relation avec le public, n'est-ce pas Stéphane ? Et lui proposer du renouveau tout en restant soi-même, n'est-ce pas, à qui ?
Toujours !
Alors, si je vous dis, par exemple, Friends, Big Bang Theory, on sait de qui on parle et on connaît leur longévité, mais on peut aussi citer Marié deux enfants, Frasier, Will and Grace, Modern Family, It's Always Sunny Philadelphia, les séries animées de la Fox comme les Simpsons. Les sitcoms et les comédies sont les genres qui semblent durer le plus longtemps. Pourtant, c'est très difficile de faire rire en 20 minutes. Alors, pourquoi ça dure si longtemps ?
Ben c'est sûrement parce que c'est les séries qui se rapprochent le plus du modèle traditionnel, c'est-à-dire de la variation et de la répétition d'un épisode sur l'autre. Donc, c'est ce qui est le plus facile à produire. C'est ce qui fait rire le plus facilement. Donc, je pense que c'est surtout pour ça que ça dure. C'est pour ça que ces séries-là cartonnent dans le monde entier et qu'on a 20 épisodes et 20 saisons. Quoi.
Et ça dure que 20 minutes aussi.
Mmh. Donc, ça
s'en sert super bien dans le quotidien. On peut regarder ça pendant qu'on mange, pendant qu'on fait la vaisselle, ça m'arrivait aussi. Ou la lessive, là, c'est vraiment quand c'est très, très chiant.
Ça n'arrive pas.
La lessive ou de regarder pendant la lessive ?
La lessive.
Rarement. Mais oui, c'est quelque chose qui s'insère super bien dans le quotidien et on y revient avec plaisir parce que justement, c'est court. Donc, le nombre de fois où j'ai vu Friends, où j'ai vu Parks and Recreation, c'est parce que justement, je suis capable de m'enfiler trois épisodes dans l'heure et ça changera pas grand-chose à mon quotidien. Alors que regarder trois épisodes des Sopranos, ça devient beaucoup plus compliqué.
Et c'est justement, leurs thématiques sont souvent soit familiales, soit les comédies de workspace, comme on dit. Workplace, sorry. Et
c'est American.
Et donc, en fait, c'est cette comédie-là qu'on trouve dans des situations que nous, on vit au quotidien. Et c'est là où on a besoin de se relâcher. On se dit aussi, on va suivre. Mais ça permet aussi de rebondir sur les actualités du moment qui permettent tout simplement de continuer et continuer d'avoir toujours de la ressource.
Alors, ça permettait de rebondir sur l'actualité. Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup moins. Et on a plus ces séries de 10 saisons qui vont parler du 11 septembre ou de la guerre en Irak ou de l'inflation, de ce que c'est d'être ouvrier, etc. C'est quand même de plus en plus rare et encore plus dans les sitcoms.
Mais moi, il y a un truc qui me perturbe, c'est parce qu'à chaque fois, tu nous parles de The Good Place, et je crois que c'est le pire contre-exemple qui peut exister.
Alors, j'ai pas donné The Good Place. The Good Place,
tu l'as mentionné, mais.
C'est Tom dans cette présentation.
Non, c'est Tom, en plus. Mais en fait, c'est 10 épisodes, 4 saisons. En fait,
c'est un ovni. C'est pour ça que je le mettrai pas ici, The Good Place. C'est une des séries que j'adore, pour le dire au public qui nous suit pas forcément. Je suis très, très fan et ils en ont marre de m'entendre parler de cette série. Mais c'est un ovni, c'est un vrai ovni, et je le rangerai vraiment pas ni dans les séries longues, ni dans les sitcoms. C'est quelque chose qui est entre
les deux.
Surtout dans les... Enfin, c'est devenu sur Netflix. Et puis, de base, c'est l'une des rares sitcoms à être fantasy un petit peu, alors que la plupart sont hyper réalistes.
Mais du coup, c'est un genre qui s'amenuise. Enfin, il n'y a plus trop de sitcoms, de comédies comme ça. Est-ce que...
Non.
Ça tendra à revenir ? Et si oui, dans des schémas... Parce que quand on voit How I Met Your Father, le spin-off de How I Met Your Mother...
Annulé.
Qui a été annulé, qui a fait une saison 1 de
10 épisodes.
10 épisodes, et la saison 2 d'un peu plus.
16.
Ouais. 16, mais ça n'a pas créé de rendez-vous en plus. Quoi.
Non, mais le problème, c'est la mode de diffusion. Quoi. C'est des plateformes de streaming. Là, c'était sur Disney+. Les audiences sont pas les mêmes. Enfin, on cherche pas... Les gens qui la produisent ne cherchent pas du tout à avoir les mêmes choses. C'était certes d'une série d'une marque, enfin d'une série très connue qui avait 9 saisons, même si les acteurs repassaient une fois de temps en temps dans les nouveaux épisodes de How I Met Your Father, ça a jamais pris quoi. Et puis si ça fait pas d'audience, il y a personne qui regarde, pourquoi continuer quoi. Donc autant annuler quoi.
Les plateformes ne laissent plus la chance aux séries de se poser, de trouver leur rythme et leur personnage, parce que How I Met Your Mother, la première saison, elle n'était pas non plus incroyable, hein, n'oublions pas.
Mais est-ce que justement ils n'auraient pas pu faire une vingtaine d'épisodes, vu que ça se consomme comme ça?
Appelle Bob Iger, pourquoi est-ce que...
Mais par exemple, Blockbuster, la comédie de Netflix, qui n'a pas du tout marché, ils ont fait à peine 13 épisodes, ça n'a pas le temps de s'installer. Quoi.
Oui, mais c'est une question de popularité à chaque fois, en fait. On ne laisse pas le temps aux séries de s'installer, d'être populaires, et c'est ce qui fait qu'elles vont durer, c'est parce qu'elles sont populaires. Un Friends, la première saison n'était pas forcément aussi suivie que la cinquième, et sa popularité a aidé à ce qu'elle dure, à ce qu'elle fasse des saisons de 22 épisodes, et aujourd'hui, c'est plus possible. Enfin, je mets au défi quiconque de regarder 22 épisodes d'une sitcom sur l'année. Les plateformes, oui, Stéphane, bon, la seule personne au monde, mais les plateformes ont cassé ce modèle-là, et on regarde plutôt des séries qui vont se consommer en 10-13 épisodes plutôt qu'en 22.
Et c'est drôle, enfin, c'est pas une comédie, mais quand tu regardes qu'aujourd'hui, les plateformes sont contentes parce qu'elles ont Suits dans leur... Enfin, c'est une série qui n'est pas forcément diffusée en France facilement, quoi, donc elle est... Aux États-Unis, elle est sur une plateforme et c'est l'une des séries les plus regardées parce qu'elle a cette saison et qu'elle a, presque 150 épisodes. C'est même pas leur propre production avec leur pauvre série de 10 épisodes de 2 saisons parce que c'est annulé, parce qu'il n'y a personne qui regarde, qui fonctionne. Ils vont chercher des vieilles séries avec un nombre d'épisodes conséquents, et c'est ça qui est encore plus ironique sur le fonctionnement des plateformes et qui fait que... refaites des séries avec 20 épisodes et 20 saisons. Quoi.
Au-delà même du nombre d'épisodes, le format de 20 minutes tout court est beaucoup moins fréquent aujourd'hui. On a plus du 30 minutes en mode dramédie plutôt que sitcom 20 minutes.
Aussi. Mais du coup, Friends, The Big Bang, est-ce que ça aurait pu durer éternellement ?
Non.
12 saisons pour Big Bang Theory, c'était largement trop. Donc,
c'était déjà,
On se faisait chier quand même à la fin.
Oui.
Un petit peu.
Est-ce qu'on ose poser la question pour Friends ?
Ben c'est plus problématique pour Friends parce que c'est quand même générationnel et elle a quand même quelques défauts si on la regarde par le prisme de 2023, mais bon, c'était trop, il y a 2 saisons de trop, voilà.
Après, je pense qu'on se posait pas la question de la même manière à l'époque, et on savait terminer une série, et bon, les acteurs avaient envie d'arrêter, ce qu'on peut comprendre au bout de 10 ans, mais on s'est pas vraiment posé la question de est-ce qu'on peut continuer. C'est juste ça se termine ici, c'est plutôt logique, on va quitter les personnages alors qu'ils rentrent tous dans la vie d'adulte, on les a suivis pendant qu'ils avaient 20 ans et qu'ils tentaient, ils expérimentaient des choses, c'est le bon moment. Enfin, en tout cas, les producteurs à l'époque et les chaînes savaient arrêter une série au bon moment et de se dire non, là, presque au bon moment, mais il y avait quand même un certain recul et une intégrité entre guillemets de on va faire plaisir aux fans et leur donner la fin qu'ils veulent. Aujourd'hui, on ne cherche plus à faire plaisir aux fans, on cherche à faire plaisir à l'argent. Ouais. Mais je prends l'exemple des dernières séries qui durent 11, 12 saisons, The Walking Dead par exemple. Oui, on cherche plus à faire plaisir, on cherche juste l'argent et en se reposant sur ça a marché à un moment. Donc ça continuera à marchouiller.
Oui, et l'argent, ça se refait avec les spin-offs notamment. Voilà, donc The Walking Dead, 3 spin-offs quand même.
Les séries policières ou médicales sont aussi très longues. Law and Order continue, les experts ont perduré très longtemps. Grey's Anatomy va sûrement encore durer quelques saisons. Ouais. La 20e va commencer cette année. Qui regarde encore Grey's Anatomy?
C'est bien, c'est honnête, c'est bien, monsieur.
Moi aussi,
ouais,
la faute
de l'autre. Hein, ouais.
Du coup, est-ce que c'est pas ça le secret de la durée des séries médicales et policières, c'est-à-dire que on vient pour les personnages, on reste pour les personnages et on s'en fout un peu des.
On viendra jamais pour le médical. Enfin, à part avoir envie d'être médecin et être en train de faire sa première année. On vient jamais pour savoir comment va se passer l'opération. C'est
urgence,
très rare.
Urgence marchait parce que on était à l'intérieur des urgences et que c'était.
Urgence marchait pour l'action que ça donnait, pas pour les opérations qu'il y avait à l'intérieur. Ça marchait parce qu'on était pris dans l'urgence justement de la situation. Grey's Anatomy beaucoup moins, mais non, ça a jamais attiré parce qu'on avait envie de voir des amputations ou des opérations à cœur ouvert.
Ou un lupus.
Tu me regardes. Hein. Ouais. D'habitude, on se voit pas.
On se voit pas.
Okay. Non, de toute façon, on sait toujours que c'est soit un cancer, soit un lupus. Hein. Donc, à un moment, on n'a plus besoin de voir le cas médical. On peut juste faire avance rapide sur le diagnostic.
Et pour le cas de Grey's Anatomy, est-ce que finalement, on reste depuis 20 ans pour les personnages, même s'ils ont beaucoup changé?
Oui, de toute façon, si tu viens pour une série, généralement, tu viens aussi pour les personnages, et surtout pour les personnages. Là, c'est vrai que dans Grey's Anatomy, des originaux, il doit rester plus que Meredith et
Bailey.
Oui, mais
pas des internes.
Ouais, non, voilà. Bon, il y en a certains qui auraient dû partir, mais bon, c'est pas. Mais oui, clairement, moi, je suis resté aussi longtemps pour Meredith, quoi.
Et encore une fois, cette dernière saison de Grey's. Et très bien le renouveau des jeunes acteurs. Là, ils ont trouvé un groupe qui fonctionne bien et qui est très différent du premier. En plus, c'est pas, il y a pas forcément l'équivalent de George, l'équivalent de je ne sais qui. Et donc voilà, recommencer Grey's Anatomy, s'il le faut.
Avec la saison 19, donc.
Donc oui.
Et on reste aussi par habitude. Moi, je garde Grey's Anatomy dans mon calendrier de séries parce que ça me fait du bien de voir quelque chose que je connais depuis que j'ai 10 ans. 12, c'est ultra rassurant d'avoir un truc qui t'accompagne comme ça et qui veut pas te quitter. Bon, ça peut être aussi un pote assez lourdeau que t'as du mal à larguer, hein, mais c'est quand même très rassurant d'avoir ce genre de série qui te suivent. Tout à l'heure, il y avait SVU. Pour moi, c'est aussi ça. C'est le soir tard à 22h30, 23h de pouvoir retrouver ces épisodes-là où t'as pas besoin de réfléchir, t'as pas forcément besoin d'avoir vu le précédent, mais t'es là et t'es content de retrouver les personnages. Et ça, c'est super cool.
Ouais, mais retrouver SVU quand même, des fois, c'est émotionnellement quand même très compliqué de suivre un peu tout ce qui se passe, quoi.
De moins en moins parce qu'ils sont moins pertinents. Ils sont moins pertinents aujourd'hui qu'il y a quelques années. Enfin, en tout cas, c'est moins.
C'est parce que t'as arrêté de regarder, c'est pour ça que tu trouves moins pertinent.
J'ai arrêté l'année dernière, j'avoue. L'année dernière.
Mais je suis tout à fait d'accord. Ça l'est. Ouais. Il y a aussi sur le potentiel futur bisou entre les personnages qui reviennent. Il y a beaucoup de fans qui sont revenus sur la série à cause de ça. Ouais. Alors, je fais partie d'une communauté de fans. Nous sommes beaucoup revenus pour ça.
C'est ça aussi qui est super intéressant avec les séries qui sont très longues comme ça, c'est qu'on ne vient pas tous y chercher la même chose. Et SVU, il y en a qui vont aller chercher le bisou entre Elliot et... Mince.
Ah, les noms, les problèmes des noms.
Oui, voilà. Non, j'ai un gros problème avec les noms.
Olivia Benson.
Merci. Et il y en a d'autres qui viennent y chercher un commentaire sur la société. Donc, c'est vrai que ça, c'est bien d'avoir une série. Bon, peut-être pas 23 saisons, 24 saisons, etc. Mais il y a quelque chose de confortable là-dedans et qui attire un public beaucoup plus large qu'une série qui va aborder une thématique très frontale, en fait.
C'est vrai que les séries médicales, criminelles, le côté procédurier permet justement la longueur aussi.
Et qu'est-ce qui ferait arrêter ?
La longueur, justement. Enfin, moi, ce qui m'a fait arrêter à SVU, alors que j'aimais beaucoup et que j'ai remis Stéphane à SVU à un moment, c'est que, Au bout de 22 saisons, je pouvais plus garder cette régularité et la retrouver pendant 22 épisodes toutes les semaines, enfin tous les ans. Alors qu'à côté, j'avais Grey's Anatomy, il y avait d'autres séries qui étaient assez longues. Donc forcément, à un moment, tu fais des choix.
Oui, je trouve que c'est un faux argument de la part de Maxime, parce que j'emploierais le même, mais pour continuer. Donc,
mais moi, je fais pareil qu'Aki, hein, mais bon, voilà. Bah.
Mais est-ce que c'est pas justement le départ des personnages aussi, qu'ils soient secondaires ou vraiment principaux, qui peuvent faire partir?
Oui, bien sûr.
On se dit, tiens, peut-être que ça va être bien. Et puis, il y a peut-être un personnage qui arrive, on dit, tiens, celui-là, il est sympa.
Pourquoi j'ai arrêté NCIS, quoi? Au bout de deux saisons?
Non, oui, mais d'accord, mais je comprends pourquoi t'arrêtes au bout de deux saisons.
Il n'y a aucun personnage dans NCIS, peut-être?
Non, oh, mon Dieu, arrêtez. Non, mais enfin, moi, ce que j'aime beaucoup dans NCIS, c'est le fait que ça se renouvelle assez régulièrement et les personnages ne sont pas du tout des stéréotypes des personnages qu'on avait déjà vus auparavant. Donc, c'est toujours très frais. La routine fait qu'il y a des fois, ça s'enlise un petit peu. Mais voilà, mais NCIS fonctionne encore aujourd'hui, elle fonctionnera encore demain et elle va encore une longue vie devant elle, quoi. Et que Marc Harmon soit là ou pas là, quoi.
Et donc, ça dépend aussi beaucoup de comment tu as commencé ta série, comment tu l'as construite. S'il n'y a aucun personnage qui est parti pendant 7-8 ans, c'est quand même compliqué de se relever d'un départ d'un personnage principal. Alors que comme NCIS, c'est arrivé dès la saison 2, forcément, tu es habitué à ce changement de casting, à ce qu'il va y avoir un renouvellement et tu es moins surpris quand ça arrive, quand un acteur décide de partir.
Ce qui n'a pas été le cas pour Grey's Anatomy, où en effet, au fur et à mesure des départs des personnages, a été compliqué de retrouver, ben, comme on disait, des nouveaux internes. Et ils ont jamais pris, ils sont partis en cours de route. Hein,
donc. Moi, la saison où Christina s'en va, j'ai failli partir avec. Hein,
oui, mais moi aussi, voilà, donc beaucoup. C'est triste.
Et c'est pas ça qui a tué Walking Dead, c'est le départ des personnages ou c'est autre chose?
Absolument pas, c'est juste parce que c'était mauvais.
Non, parce que le personnage le plus populaire, donc celui de Daryl, il est quand même là.
Ouais, mais quand Rick est parti, il y a quand
tout le monde s'en fiche de Rick.
Il y a une bonne partie des fans qui sont partis. Ils étaient restés pour dire tiens,
Negan,
il y a encore lui.
Ouais.
Il est parti quand? À quelle saison? Tard, très tard, il me semble.
C'est 7, non?
Je sais pas.
Mauvais fan de série.
De Walking Dead.
De The Walking Dead.
Bon, comme vous vouliez un peu plus de temps pour parler de Doctor Who et qu'on est en avance, bah, ouvrons la page Doctor Who. Est-ce que Doctor Who a trouvé la bonne solution avec ce renouvellement de personnage principal?
Il parle des régénérations et clairement, ça fait que la série va fêter son 60e anniversaire, quoi. Donc, 60 ans d'une même série, c'est pareil, hein.
Avec un hiatus.
C'est beau. Et regarde, ils sont magnifiques.
Il en manque un, c'est le dernier.
Non, il en manque trois.
Non, il en manque deux, même.
Oh les geeks.
On n'est pas d'accord.
On a eu le débat ce midi autour d'un plat de combien de docteurs il manquait sur cette photo. Donc voilà, si quelqu'un a la réponse définitive, on est preneur.
Ce qui est bien, enfin ça c'est l'aspect anglais pour le coup. Ils peuvent se permettre de changer les acteurs. Ils l'ont fait avec Misfits, ils l'ont fait avec plein d'autres séries. Ouais. Et il y a moins ce côté. Le personnage du docteur est iconique. En revanche, les acteurs se mettent dans la peau quelques années de ce personnage et on l'accepte tout simplement.
Ouais. D'ailleurs, il y a une autre série anglaise qui fonctionne sur plus ou moins le même principe. Alors, c'était pas, à mon avis, prévu dès le départ parce que l'acteur était Ben Miles, il s'est barré. C'est Meurtre au Paradis qui est diffusé sur France 2. C'est Death in Paradise en anglais. Et en effet, tous les 2, 3, 4 ans, il renouvelle le personnage principal du détective qui part à Sainte-Marie, là-bas, à l'autre bout du monde. Et au fur et à mesure, dans les saisons qui arrivent, il y a des renouvellements de personnages secondaires. Donc en fait, on sait jamais forcément quelle saison ça peut être parce que c'est difficile de pouvoir le voir. Mais cette série-là, qui en arrive à sa 12e saison, enfin, qui est la 13e, va commencer en janvier, elle peut durer encore, comme Doctor Who, elle peut durer des années, quoi. Enfin, et c'est là où c'est magique. C'est parce que tu as un concept assez fort pour pouvoir tourner et avoir des saisons. Et voilà, moi je trouve ça beau, quoi.
The Crown en a fait sa marque de fabrique aussi dernièrement. Bon, c'est pas forcément le même modèle derrière de production, etc. Mais on est content de connaître le casting des deux prochaines saisons de The Crown. Enfin, maintenant, c'est presque fini. Je vais pleurer. Mais j'étais très heureux. Enfin, en tout cas, j'étais très excité à l'idée d'apprendre qui allait incarner la nouvelle reine après Claire Foy. Quand j'ai vu Olivia Colman, je fais bon, ok, ça va être génial.
Sans faute.
Pareil pour les saisons 5-6. Tu essaies de savoir qui va interpréter Diana, qui va interpréter Charles. Il y a une excitation derrière. Après, ça reste quand même très anglais et très. C'est des ovnis, ces séries-là. C'est rare quand même qu'une série qui dure puisse se reposer sur un changement de casting total ou partiellement total. Non, bah, du coup, c'est pas parti.
Pour, bah, pour The Crown, l'histoire est clairement déterminée, on va dire, dans sa durée. Pour Doctor Who aussi, l'univers peut se permettre tellement de choses que de, bah, donc du coup, moi, je n'ai pas vu la dernière saison, j'ai un petit peu honte. Mais tout à l'heure, il m'expliquait qu'il y a encore un nouvel élément canonique qui va étendre encore plus Doctor Who, ce qui est incroyable.
Après, la mythologie de Doctor Who et la manière dont ça s'est construit, ce changement de, enfin, avec les régénérations, à la base, c'était absolument pas prévu. Le premier Docteur devait rester jusqu'au bout de la série, sauf qu'il est tombé malade, il a voulu quitter la série et ils ont sélectionné un deuxième acteur, puis un troisième acteur, puis un quatrième acteur, en se disant que c'était l'idée de génie. Forcé de constater qu'ils avaient raison, parce que je ne sais plus à la combientième de saison on est, mais ça fonctionne encore et il y a encore du public. Après, la qualité, c'est autre chose, mais...
Bah, c'est normal, après, ça se fatigue. Mais 60 ans, c'est long, quoi. Enfin,
oui, mais qu'est-ce qui fait tenir, du coup, les fans de Doctor Who? Est-ce que c'est chaque régénération, on se dit, tiens, comment va être ce nouveau Docteur? Comment va être l'écriture? Est-ce qu'il va être conforme, on va dire, à l'héritage des autres Docteurs? Parce que j'ai l'impression que toutes les émissions qu'on a faites sur Doctor Who, on parle moins des épisodes, mais plus de l'écriture du Docteur. Et est-ce que c'est ça qui tient? Est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est le Docteur que je veux voir?
C'est vrai qu'on associe souvent au showrunner quand même pour les saisons de Doctor Who, moins que sur d'autres, enfin plus, pardon, plus que sur d'autres séries. Je pense que le plaisir de diriger Doctor Who, c'est de mettre sa patte en tant que co-auteur. Et donc, comme tu dis, oui, complètement, on est dans l'écriture pure plus que le potentiel Docteur.
Oui. Surtout que ça, enfin, ce modèle-là où le showrunner, ou en tout cas l'équipe artistique derrière, est en correspondance avec l'acteur qui va incarner le rôle, ça se retrouve nulle part ailleurs. Je sais qu'on a eu beaucoup ce débat de savoir qui on préfère entre la période Davis avec David Tennant, la période Davis avec Eccleston, ou la période Chibnall avec Sorkin, ou ma préférée, celle de Gatiss avec Matt Smith. Mais voilà, il y a vraiment cette direction artistique qu'on cherche dans la série, autant au niveau des effets spéciaux. Enfin voilà, il y a une vraie identité, et ça, j'ai du mal à voir une autre série qui peut se targuer d'avoir la même force. Ouais.
Mais aussi, ce qui fait revenir un peu Doctor Who sur le devant de la scène, c'est aussi le changement. Là, on voulait une femme. On a une femme, ça a pas plu au début. Enfin, je veux dire, le personnage n'a pas plu. Qu'est-ce qui a gêné, en fait?
L'écriture. C'est le showrunner.
Pourquoi? Parce que...
Parce qu'il était pas bon. C'était pas du tout son élément. C'était un grand fan, ça se voit à l'écran. Mais il n'était pas un bon écrivain de science-fiction.
Ah, c'est fou, parce que sur Torchwood, il faisait des choses très bien. C'est
Chris, oui, personne connaît Torchwood.
Il avait une matière qui était quasiment neuve.
Oui, et puis il y avait ce côté un peu enquête dans Torchwood qui a beaucoup moins dans Doctor Who. Oui. Et ouais. ça force aussi, hein, des séries criminelles.
Qu'est-ce qui a fait partir Jodie Whittaker, du coup? Est-ce que c'est les fans qui ont dit tiens c'est nul? Est-ce que c'est le run du showrunner qui a dit
ça c'était il y avait les alors après c'est très particulier parce qu'il y avait les 60 ans qui arrivaient, ils voulaient relancer la série, il y a le deal avec Disney Plus, enfin il y a une nouvelle mondialisation de la série qui arrive. C'est vrai que quand ils s'appellent Chibnall et Whittaker, ils étaient un peu dans la balance parce que bon, c'était un peu fatigué. C'est vrai que la féminisation du Docteur a fait beaucoup couler d'encre chez les fans un peu trop hardcore, voire même beaucoup trop hardcore. Alors qu'ils
se connaissaient avant aussi.
Oui,
ils avaient collaboré ensemble avant.
Non, contrairement aux autres. Alors que Jodie Whittaker est vraiment très bonne dans le rôle. Hein. Oui. C'est pas le problème. Mais voilà, ils ont fait en sorte que tout s'arrête et que ils ont fait revenir Davis. Ils ont créé un événement pour pouvoir relancer la série, quoi. C'est tout.
Est-ce qu'ils n'arrivent pas au bout d'un modèle, finalement?
Ils sont arrivés au bout d'un modèle, et sauf qu'ils en relancent un nouveau. Voilà. On va voir si ça fonctionne ou pas, quoi.
Qu'est-ce qui pourrait marcher, là? Enfin, qu'est-ce qui doit...
Mais là, c'est la nostalgie.
La nostalgie,
c'est 100% la nostalgie.
Non, nostalgie, je sais pas.
Sur les épisodes spéciaux,
pour l'épisode anniversaire, clairement. Après, pour la nouvelle saison qui va arriver début 2024, avec Anshuti Gatwa de Sex Education, dans le rôle du 15e Docteur, c'est clairement pas la nostalgie. C'est de l'ambition. Tu vois, ils ont choisi un acteur noir, ils ont choisi des jeunes. Ils la globalisent avec l'arrivée sur Disney+, le jour même de la diffusion en Angleterre. Donc, le monde entier pourrait avoir accédé à son épisode de Doctor Who. Il y a une nouvelle étape cruciale qui se joue là. Et ils mettent beaucoup... la BBC a quand même vendu la marque Doctor Who à Disney+, à Disney pour beaucoup, beaucoup d'argent. Donc,
Mais
ça devrait, ça va pas se casser la gueule, clairement, parce qu'en plus c'est encore notre showrunner préféré qui est aux manettes, donc on sait que ça va. Il y a beaucoup de points positifs qui font que ça va fonctionner, quoi.
Moi, ce qui me fait juste un peu peur, c'est qu'il part dans quelque chose de très très divertissant, même si la série est toujours divertissante, alors qu'à la base c'était quand même quelque chose de pédagogique, et ça ils l'ont perdu au fur et à mesure. On l'avait au début de la nouvelle ère avec les nouvelles saisons, etc., mais par exemple avec Chibnall ou même avec Gattis, ça s'est perdu, ça, ce côté où on va présenter un contexte historique, on va essayer de voir comment les gens vivaient à cette époque là ce qui s'est passé dans l'événement où on arrive, etc. Ou, par exemple, des épisodes peut-être plus proches, mais avec des thématiques sociales, etc. Et là, j'ai un peu peur qu'on perde un peu ça.
Au contraire.
Franchement, il faut avoir confiance en Russell T. Davis, qui devrait pouvoir nous...
J'ai pas confiance en Disney.
Oui.
C'est ça que t'as peur. Ah oui, d'accord.
Mais qu'elle va pas devenir une série grand public.
Mais non, parce qu'en fait, ça reste un diffuseur, là. On reste. Bah si, c'est quand même la BBC de base.
C'est une série de niche, quand même.
Non, mais la BBC. Oui,
c'est une série de niche.
Non, c'est pas une série de niche.
Doctor Who n'a jamais cartonné en France.
Si, sur France 4.
En France. Mais on n'est pas le centre du monde, Tom, la France.
Doctor Who n'est pas à la hauteur d'un Walking Dead au niveau buzz, quoi.
Et je miserai pas là-dessus. Je pense que tu te trompes.
Alors, il se
je
teste,
propose de faire un sondage.
qui a vu Doctor Who?
Qui a vu The Walking Dead?
Bon, ben, j'aurais misé quand même plus sur Doctor Who, quoi.
Tu nous dois une tournée ce soir.
Bon, si tu veux.
Et du coup, les séries où le héros est remplacé, par exemple The Office, X-Files, Les Experts, ou plus récemment, j'ai pas du tout d'idée. Pour
FBI.
Les Cutters.
Est-ce que ça signe l'arrêt de mort d'une série?
Généralement, oui. Enfin, Heroes, après la saison 20, ça a été quand même compliqué.
Mais ils ont changé personne.
Ah oui, non, c'est vrai que c'est pas eux qui ont changé. Ouais. C'est plutôt l'écriture, là. Non, mais The Office, ça a quand même marqué une deuxième vie qui a été compliquée.
Mais c'est surtout que le personnage qui change, si c'est celui qui est emblématique dans le cas de The Office, bah évidemment on ne peut pas dissocier Steve Carell de The Office. Donc quand c'est, j'ai oublié son nom tellement il m'a pas marqué.
Il y en a eu plusieurs.
James Spader.
Non, je pensais pas à lui, je pensais au grand Ed Harris. Non, pas Ed Harris.
Ed Helms.
Ah, Ed Helms.
Voilà, oui, ça. Ah, oui. Enfin, tu ne peux pas, en fait, tu ne remplis pas les chaussures comme on dit.
Pourtant, ouais. C'était le plus connu après Steve Carell.
C'était la faute de
Very Bad Trip.
Very Bad Trip, ouais, clairement. Ouais.
Et du coup, pour...
Et toi, pour X-Files, Tom, qu'en as-tu pensé? Est-ce que tu étais autant attaché à la série?
En fait, je me suis fait violence. Je me suis mis à aimer Robert Patrick avant qu'il arrive. On dit, faut que je l'aime. Et quand il est arrivé, je dis, je l'aime.
L'auto-persuasion, c'est beau.
Mais par exemple, pour les experts, moi qui adorais Grissom, j'adorais le personnage, il est parti. Je trouvais que Laurence Fishburne rendait la série plus fade, en fait. Et Ted Danson encore plus, ça ressemblait à du NCIS. Et donc du coup j'ai arrêté.
Ok, non, oui, non, oui.
Parce que j'adorais Grissom et puis il y avait quelque chose avec lui.
Et autre question, est-ce que tu as regardé le revival avec Grissom?
Ouais, mais il n'était pas personnage principal, donc j'ai arrêté. Ouais, mais c'est ça, c'est que ça peut aider. Par exemple, pour The Office, je savais que sans Steve Carell, ça va être beaucoup moins bien. La saison 8 est pénible, la saison 9, il y a un esprit de groupe qui est revenu. Et après, c'est une question d'écriture et puis aussi de patience. Hein. Il ne faut pas non plus lâcher une série dès qu'elle devient moins bien. Parce que
surtout que c'était la dernière saison, donc on savait dans quoi on s'embarquait quand on regardait la saison 9 de The Office.
Oui,
quoi.
Voilà.
Quand elle est chiante pendant 3 saisons aussi, il faut lâcher. Il y a un moment, il faut arrêter.
Dis le mec qui regarde Grey's Anatomy encore.
Mais on a prouvé par Amusement que ça valait le coup encore.
Il y a eu de très mauvaises saisons. Entrecoupé,
oui, ça en fait au moins 4. Bon, c'est
le 25 épisodes à chaque fois.
Faux. La 19 est très bien. La 17 était très bien.
L'épisode 5 à 8, c'est.
Les saisons Covid étaient très bien.
Exactement.
Ah, non.
Si.
Non. Bon, c'est OK.
On en a déjà discuté.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que vous voyez une autre série où le héros a par contre transcendé le... Enfin, il a été le remplaçant de luxe. Esprit criminel, peut-être, non? T'as pas regardé?
Non, c'était pas ma cam, ça. C'était trop dark pour moi.
C'est trop. Alors, bien pour toi.
Moi, j'ai peut-être un exemple qui est maintenant un peu has-been, surtout que, Tom, tu vas me tomber dessus, Charmed. Le changement entre Clue et Paige a fonctionné, et bon, la série n'était pas forcément...
Tant qu'il y avait Alyssa Milano, je m'en
fous. Oui, bon, ça, on savait. Mais le changement, pour le coup, a été à la fois bénéfique et a fonctionné auprès du public. Donc, bon, elles ont réussi.
Et... En revanche, pour la dernière saison, quand ils ont essayé de lancer Kelly Cuoco, là, ça n'a pas marché. Mais bon.
Parce qu'elle était blonde.
C'est vraiment plus.
Oui, c'est oui.
Oui.
On va passer à la deuxième partie. C'est les temps sont durs. Les séries qui se sont écroulées après un concept fort en saison 1. Déjà, les saisons 1 qui sont très fortes, est-ce qu'elles méritent une saison 2? Est-ce que c'est le concept qui est trop fort pour durer? Est-ce qu'on met...
Pour Prison Break, clairement, pour moi, le concept était trop fort pour être dupliqué par la suite. Et c'est ce qu'il a été sur les saisons d'après. Donc, ça a été quand même 3 saisons. Ouais.
Non, sur la, c'est 5? La saison 3 où ils le remettent en prison parce que les gens râlaient parce qu'ils n'étaient plus en prison dans la saison 2.
Justement, donc, voilà. La résolution de la saison 1 qui se faisait comme un tout a fait que derrière, il fallait relancer la machine, il fallait relancer l'intérêt. Et ça a été quand même très compliqué.
Alors que la saison 2, au final, est quand même un super thriller où les gens se pourchassent les uns les autres. Et non, c'était vraiment... Ah non, si c'était...
Ah, j'ai trouvé ça horrible.
Bon. Vraiment, la saison 3 était pire, quand même. Justement, oui, là,
la prison mexicaine, elle n'était pas bien.
Non, mais la saison 1 était excellente. Hein. Il fallait juste s'arrêter là. Bon. Après, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu.
Comment tu veux arrêter une série qui fonctionne?
Non, mais oui.
Enfin, moi, le mec de la Fox, je
oui, vois pas de c'était à l'époque où c'était, vu que c'était diffusé, c'était 22 épisodes et fallait durer, t'es là pour durer, quoi.
Ben oui,
c'est pas des séries événements, donc fallait les poursuivre.
Les séries événements, ça n'existe pas pour moi, mais bon, après, c'est notre débat.
Et du coup, oui, Prison Break, ça aurait dû s'arrêter à saison 1.
Clairement.
Ben, ou alors, il fallait faire un peu plus d'épisodes et apporter une vraie conclusion, plus que la sortie de la prison, quoi.
C'est le principe de la série.
Oui, non, mais ça, c'était... Non,
et un film.
Parce qu'il y a eu...
Un téléfilm qui est rétro.
C'était honteux. Arrêtez. C'était, voilà.
Pour Heroes, pour le coup, pour moi, c'est pas le concept qui s'est écroulé. Le concept, il était bon et on était tous à fond. La saison 1 est excellente. C'est plus l'écriture derrière et les personnages qu'ils ont introduits. La saison 2, pourtant, il y a Kristen Bell dedans, donc forcément, j'étais obligé d'adorer. Là, ça a quand même...
Non, pas Kristen Bell.
Oui,
parce qu'on a entendu... Kristen Bell. Oui. Non, parce qu'elle était choquée.
Non, c'est pas ça, c'est que j'avais oublié tellement. Elle était vraiment
c'est
pas...
C'est le seul bon personnage de la saison 2. Enfin, c'est le seul truc qui fonctionne. Mais derrière, oui, en effet, ils ont eu du mal à relancer, à faire une mythologie, à rendre les personnages très intéressants. Enfin...
Il y a eu la grève des scénaristes à saison 2, je crois.
C'était là?
Bonne question.
Ah,
ouais. Bonne question.
Oui, mais ça justifie pas tout.
J'attends une bonne réponse, maintenant.
Ben, j'en ai pas, donc...
Mais non, bah, ça aurait pu être... Ça aurait pu être une saison plus courte. Effectivement, les personnages pêchaient complètement. Parce que, en fait, ils ont essayé aussi d'être de plus en plus originaux dans les pouvoirs. Et ça ne rendait pas bien du tout en image. Et donc, ils se sont perdus.
Non, mais c'est-à-dire qu'ils ont misé aussi sur les mauvais personnages. Parce que Skyler, franchement, il était déjà chiant en saison 1. Et tout faire sur la saison 2 sur lui, j'aime bien Zachary Quinto. Mais bon, il ne faut pas déconner, quoi. Enfin...
Et Adrian Pasdar, son personnage, je ne me souviens plus comment il s'appelait. Mais,
Nate.
Ah oui, Nathan, un truc comme ça. C'était horrible.
Il y avait Milo Ventimiglia.
Oui, mais ça, c'était le seul bon truc de la série. Mais...
13 Reasons Why, pareil, c'est basé sur un livre. Donc, est-ce qu'on fait une saison 2 basée sur rien?
J'ai pas dépassé l'épisode.
Comme disait Maxime, à un moment donné, il faut avoir des bons scénaristes. Il faut avoir les bonnes idées des bons scénaristes. Tu peux faire une saison 2 sur tout, même si t'as qu'un livre de... 300 pages.
Surtout quand on dit adapté d'un livre, là c'est librement adapté d'un livre. Et ils auraient pu, psychologiquement, ils auraient encore pu analyser beaucoup plus de choses chez les ados et ils l'ont pas fait en fait. C'est devenu un teen show un peu à la.
Elle est choquée.
Sensationnel. Sensationnel.
Moi je prends l'exemple de The Handmaid's Tale. Où la saison 1 adapte la première saison avec un parti pris, notamment de modifier un peu la trame du livre pour la série. Ce qui fonctionne plutôt bien dans la saison 1, mais ce qui fait que dans la saison 2, 3, 4, 5, on est allé à 6 là, je crois.
Oui.
Il va sortir.
C'est pas fini encore.
C'est la dernière. Ah ouais, d'accord. Ils ont complètement perdu l'intrigue, les personnages, la raison même du livre, ce que le livre voulait dire. Et aujourd'hui, on est sur un semblant de propos politique vaguement féministe, mais qui l'est plus vraiment et qui même parfois est un peu étrange, un peu border de l'autre côté où c'est un peu misogyne sur certains points, notamment sur le personnage de Elizabeth Moss.
June.
Là, clairement, saison 1, elle aurait suffi parce qu'elle a adapté un livre en entier. S'ils avaient eu des idées excellentes pour la suite, ils auraient pu le faire. Mais écriture et manque d'investissement, je trouve, dans le sujet, qui fait que derrière, c'est quand même très pénible à voir.
En fait, dès qu'elle est retournée à Gilead, il y avait un problème. Quoi.
Et surtout que dans le pire dans cette histoire, c'est qu'ils se sont dit, on va terminer la série. mais on va adapter le nouveau livre que qu'elle, Margaret Atwood a écrit pour voir. Non, mais enfin,
et d'autant plus que
ils veulent tirer la corde sur les univers et c'est triste.
D'autant plus que tout ce qui est fait dans les dernières saisons, dans les 2-3 dernières saisons quand elle est au Canada, je spoil personne, j'espère. S'éloigne tellement de la prochaine adaptation du livre qui a été fait à côté que je ne vois même pas comment ils vont pouvoir raccrocher les wagons. C'est impossible.
C'est, peut-être que ça sera un projet parallèle, ça ne sera pas une suite ou rattaché à ce. Mais, ça serait
tu fais
bizarre.
Autre chose alors, oui, ça tu t'inspires, oui, non, ça tu le mets dans un autre monde, mais tu ne refais pas une adaptation. Enfin, c'est très étrange.
Enfin, autant pour des séries un peu plus à l'ancienne, Heroes, etc., le retour des fans était vachement pris en compte. Et je trouve que dans les nouvelles séries, donc Handmaid's Tale, etc., on le prend beaucoup moins en compte, alors que pourtant, c'est beaucoup plus vocal qu'avant.
Parce que c'est écrit avant.
Ça joue, bien sûr.
Qu'est-ce que tu entends par retour des fans? Parce que les fans ont fait des pétitions pour que Heroes revienne. Ils ont refait une nouvelle série Heroes et il n'y a personne qui l'a regardé. Non, quoi.
Parce que le retour des fans pendant la diffusion de la série, quand on regardait Friends ou Grey's Anatomy, vu que c'est à l'année... les fans font des retours sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est plus possible vu que tout est écrit en amont du tournage et que pendant le tournage, les scénaristes n'ont même pas le droit d'être là. Ou très peu. Il y a le showrunner, il y en a un sur l'ensemble des scénaristes qui écrivent la série. Et ils ne peuvent même pas faire de modifications en direct pour ajuster quand ils voient que en fait, ça fonctionne pas des masses. Quoi. Donc ça, c'est un gros problème pour la qualité des séries.
Oui. On parle de Mr. Robot sur le chat. Est-ce que c'est un concept très fort en saison 1 qui s'est écroulé ou est-ce que juste qu'ils ont tout donné en saison 1 et ensuite ils ont eu un peu de mal?
La preuve, c'est que franchement, on n'en a pas du tout entendu parler après la saison 1 quand même. La saison 2, à la grande rigueur, c'est juste Sam Esmail qui a été reconnu comme genre un auteur de fou, mais en fait, à part ça...
Ça n'a jamais été un chef-d'œuvre, mais ça n'a jamais été mauvais non plus. Enfin, voilà, faut mettre... C'est la saison 2, 3, 4... Exactement. La saison 2, 3 et 4, elles sont beaucoup trop alambiquées. Moi, je n'ai pas toujours tout compris, mais je n'ai jamais non plus suivi ça avec des plaisirs. Contrairement à d'autres séries qui ont duré beaucoup trop longtemps.
You
Clairement trop longtemps, oui.
Pourtant, c'est basé sur des livres, même les autres saisons.
Oui, mais quand ce sont des livres qui sont des soaps, en fait, à un moment, tu n'as
si
pas besoin de tout adapter.
C'est des mauvais livres.
À un moment, True Blood, ça a été adapté de livres et pourtant, ils sont tellement éloignés des livres que 5-6 saisons, ça suffit. Quoi.
Est-ce que You, là, c'est la faute de Netflix ou pas?
C'était la faute de Netflix.
Ce n'était pas une série nouvelle, c'est ça, oui. Clairement.
C'était renouvelé, Netflix l'a racheté et après, ils ont voulu...
Mais déjà, pourquoi est-ce qu'il est en Angleterre, là? Et il est où, maintenant? Je ne comprends plus rien.
J'ai arrêté au bout de 3 épisodes de la saison 1, donc pour moi, il est toujours dans la liste des séries pas terminées.
Stranger Things?
Stranger Things, compliqué, parce qu'on on en parle comme d'un phénomène de société qui a relancé Netflix. C'est l'un des géants de Netflix, il faut le reconnaître.
Ah oui, clairement. Oui,
et aujourd'hui... La dernière saison, je pourrais pas vous sortir. Enfin, à part que une chanson a été tout soudainement remise au goût du jour, je ne pourrais pas citer une seule chose qui se passe dans la série, quoi.
Après, Netflix, Stranger Things a quand même eu un bad buzz, à cause de sa mise en avant, sa promotion comme étant la série Netflix, etc. Je pense que si on n'en avait pas fait autant, c'est une série qui aurait suivi son cours. Elle suit son cours, mais on se serait pas mis à la critiquer aussi violemment et ou à lui en faire toutes les louanges qu'on a pu lire ou entendre. Ça aurait été une série qui aurait juste vécu sa vie et qui aurait eu ses fans et qui se serait très bien terminée. Voilà, il y aurait pas eu plus que ça.
Peut-être qu'il n'y aurait pas eu plus de saisons que ça aussi. On l'avait laissé vivre sa vie. Hein.
Mais ce qui est positif avec cette série, c'est quand même, c'est multigénérationnel. Ok, il y a des jeunes qui l'ont regardé, des ados qui l'ont regardé, mais ils peuvent la regarder aussi avec leurs parents et ça marche en fait. Et il y a une raison pour laquelle.
Parce que
ça
du
fait
coup, le concept finalement de la série, c'est l'univers qui tient, qui permet la longueur de la série. Mais, toi, t'es pas d'accord.
Si, pour moi, c'est l'univers.
C'est de la nostalgie. Encore une fois.
Ils construisent leur mythologie au fur et à mesure des saisons, ça fonctionne, ça se tient. Bon, après, il y en a qui sont embarqués, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Pour moi, c'est juste une question de goût. Je ne le suis pas, embarqué. Mais je vois des épisodes ou des extraits de temps en temps, je me dis que c'est quand même visuellement très beau. C'est très bien fait. Je vois ce qu'on y trouve dans les personnages, dans ce qu'ils vivent, notamment les ados. Ils sont en train de grandir. On a fait plein de compliments sur Sex Education. Eux, ils travestissent juste ce qu'ils font dans Sex Education par de la science-fiction ou du fantastique. Et du coup, on le reçoit pas de la même manière. Mais pour moi, c'est pas du tout honteux par rapport à d'autres séries où vraiment, derrière, tu vois qu'il y a personne.
Et du coup, c'est trop long, c'est au niveau des épisodes.
Ah oui, ça, clairement.
2h30 un épisode, c'est qu'il y a un problème.
Oui, bah, tu fais 3 épisodes ou 4 épisodes et on a des séries.
Ils n'avaient pas le temps de faire plus d'épisodes. Non, ils ont fait des épisodes plus longs.
Il y a un monteur derrière. Il y a quelqu'un qui fait le montage des épisodes.
Surtout qu'il y a des fondus au noir dans l'épisode.
Oui, bah, voilà.
Fondus au noir, techniquement, c'est pour créer une post-pub.
Mais il n'y a pas de pub sur Netflix.
Donc voilà, c'est clair.
Bientôt, attention.
Bientôt, ouais.
Au niveau des séries événements, par exemple, je parle Last of Us, est-ce qu'en saison 2, ça peut être pareil ou est-ce que ça va retomber?
Après, bon, nous aussi, ça a créé polémique pour The Last of Us, mais la qualité de la série et la beauté tout simplement de la série qui est contemplative hein, par moment, oui, elle pourra marcher en saison 2, surtout qu'il bah, y a encore du jeu à adapter. Hein.
Oui, c'est parce que ça manque aussi de séries un peu fédératrices autour du monde des séries. Depuis la fin de Game of Thrones, à part House of Dragon, peut-être Andor.
House of Dragon,
non. Non, Game of Thrones, par rapport à ces séries-là, c'est bien plus haut. Le niveau de fandom qu'il y a eu pendant 8 ans, parce que ça a commencé dès la saison 1, vraiment. Le niveau de discussion qu'il y a eu autour de la série, elle est inégalable aujourd'hui, je pense. Peut-être que Stranger Things peut s'en rapprocher un peu, mais c'est... Je pense qu'on le retrouvera plus. C'est plus possible. Mais pour moi, ça a fonctionné aussi parce que ça a créé de la discussion pendant très longtemps.
Bah, justement, par rapport à ça, je pense pas que Stranger Things puisse être comparé dans le sens où c'est quand même une série Netflix, donc en binge, enfin, qui est, tous les épisodes sont disponibles. Donc, en fait, sur la durée, The Last of Us, encore oui, ça peut être comparé parce que c'était une diffusion hebdo.
Oui.
Mais, enfin, les séries Netflix n'arriveront jamais à ce niveau, en fait.
C'est sûr.
Et du coup, l'attente, ça sera le prochain point, mais si Last of Us arrive dans 2, 3, 4 ans, ça peut jouer.
Oui,
clairement. Oui. Parce que où elle est la discussion quand, en fait, on a déjà commencé à oublier l'intrigue. C'est la régularité d'une série dans notre quotidien, c'est ça qui fait que, déjà d'une, elle crée le manque, donc on a envie d'y revenir, et elle crée la discussion, donc tu la diffuses autour de toi, tu as du bouche à oreille. Maintenant, aujourd'hui, si un pote vient me voir en me demandant quelle série tu me conseilles, je ne vais pas lui conseiller The Last of Us parce que c'était déjà il y a quoi, 6 mois, même plus. Je vais lui conseiller la dernière série que je viens de voir ou une série qui m'a vraiment marqué et que je sais qu'il va revenir ou pas. Là, le fait d'être dans l'attente de peut-être que dans 3 ans, on aura la saison 2.
Non, c'est vache ce que vous dites parce qu'on est quand même dans des périodes troublées. Donc, il y a eu la grève des scénaristes qui vient de se conclure. Il y a la grève des acteurs maintenant qui est un peu voilà.
Ça continue.
Je sais plus comment il s'appelle, le mec là. Enfin, le mec que j'aime pas, mais enfin, bon, on s'en fout.
Greg Mazin.
Oui, Greg Mazin. Merci. Quelle horreur. Il avait dit qu'ils étaient prêts plus ou moins à tourner. Donc, en fait, ce serait arrivé vraiment très vite. Potentiellement, HBO voulait que ça revienne début 2024, c'est-à-dire un an après la diffusion. Donc.
Là, c'est conjoncturel. Mais pour le coup, il y a des séries où elles mettent vraiment 2 ans et demi, 3 ans à revenir.
Severance.
Oui, voilà.
Oui, c'est vrai.
On notera quand même que ce sont toutes des séries de genre qui sont fédératrices. Et la communauté geek derrière y est pour eux.
Ouais. L'attente entre les saisons a-t-elle un impact sur l'appréciation temporelle d'une série? Je m'explique. On regarde de plus en plus vite, mais on attend de plus en plus. Est-ce que l'écriture d'une série, par exemple, on parle de plus en plus de films découpés en séries, est-ce que l'écriture agit sur le visionnage et donc fatalement sur la durée de vie d'une série? C'est-à-dire, est-ce que la notion d'épisode, un épisode me suffit, est-ce que ça existe encore? Ou est-ce qu'on est obligé, pour apprécier quelque chose, de tout regarder?
Alors, je pense que ça existe encore, mais le public, entre guillemets, général, c'est pas une personne en particulier, est tellement habitué à avoir tout de disponible sur les plateformes et à pouvoir voir 3 épisodes ou 1 ou 10 dans la journée, si tu veux, qu'il n'y a plus cette obligation de l'attente. Et moi, c'est ça que j'aimais aussi quand... C'est aussi pourquoi on en discute aujourd'hui. C'est ce que j'aimais dans les saisons de 22 épisodes, c'est que j'avais l'attente dans la semaine, mais j'avais aussi l'attente dans l'été. Quand on ouvre la trappe à la fin de la saison 1, il faut se taper les 4 mois d'ici à fin septembre pour savoir ce qu'il y a sous cette trappe.
Et il y a une trappe dans Friends.
Tout à fait. Oui. Tu ne l'as pas vue, elle est au fond, à côté de la salle de bain. Mais oui, pour moi, ça, c'était super important. C'est très frustrant quand tu le vis, mais c'est super important avec le recul.
Moi, je ne suis pas d'accord avec toi sur ça. Enfin, la durée, bien sûr, des saisons. Mais non, je vais dire... La durée des saisons, bien sûr, j'aimerais qu'on revienne à des saisons de 22 épisodes, évidemment. Sauf que je suis assez... Enfin, je suis très partie... Ouais, bon, bref, j'aime bien quand on binge, tout simplement. Donc, j'aime bien me faire 12 épisodes d'un coup et que Netflix diffuse par 2 parties de saison. J'y adhère. Voilà. Et en plus, surtout que... Enfin, j'attends que toute la saison soit disponible avant de pouvoir tout regarder et ne pas avoir ce temps d'attente. Voilà.
Oui, mais du coup, t'es biaisé dans ta appréciation de la série.
Je suis un poisson rouge, donc en fait, si je les enchaîne pas, moi j'ai oublié ce qui s'est passé la semaine dernière, hein, c'est tout.
Après, ça dépend aussi du type de série. Hein. Les séries de genre, pour moi, c'est impératif que ça existe, cette attente, cette frustration. Il y a d'autres séries où forcément tu en attends moins, et du coup, c'est pas trop grave de tout binger. Je pense notamment à Orange is the New Black. Ça m'a absolument pas dérangé de voir les saisons à la suite comme ça, parce que c'était construit comme ça. Après, c'est Netflix qui fait son modèle, mais pour moi, c'est un modèle qui n'est pas possible avec une série de genre, ou alors dans ce cas-là, elle est très rapidement oubliée. On n'en parle plus.
Oui, parce qu'il y a aussi toutes les théories autour, la discussion.
Et Vrind, ça a marché pour ça.
C'est pour ça aussi qu'ils divisent les saisons en deux parties, quoi. Ils essayent de recréer un événement et une discussion entre 2 mois ou 1 mois, en fonction de ce qu'ils font, pour pouvoir essayer de...
Ça dépend. Oh, parce qu'ils le font pas forcément sur les bonnes séries. Je pense
ça, je suis d'accord.
Je sais plus
comment. The Crown, ils le font, par exemple.
Oui, c'est la première fois et c'est horrible. Oui, c'est parce que du coup, je sais pas ce que je vais faire entre le jour de la sortie.
Mais c'est parce qu'il y a un sous-temporel en plus entre les deux à ce moment donné dans la saison. Oui. Donc ça aide.
Mais je pense que c'est une série vraiment pas très bonne, mais Firefly Lane, qui a été une des premières séries. Oui, qui était très mignonne. Mais moi, j'y allais parce que.
Là pour toi, toujours là pour toi.
Et c'est avec une actrice de Scrubs et une actrice de Grey's Anatomy. Ouais. Mais là, je voyais absolument pas l'intérêt de couper la saison en deux, si ce n'est de faire du marketing en deux temps, alors qu'il n'y a même pas de cliffhanger à la fin de la première partie.
Au contraire, cet été, ils ont diffusé à Netflix The Lincoln Lawyer.
En deux parties, mais ça faisait sens.
Et c'était en deux parties. Et c'était bien fait parce qu'il y a eu un bon gros cliffhanger à la fin de la première. Et en effet, tu te demandais si... Bon, on savait qu'il allait survivre.
C'est économique qu'il fasse deux parties. C'est pour qu'il y ait des viewers premier semestre. Et
on est d'accord. C'est, comme disait Maxime, c'est pour construire un modèle. Mais pour le coup, ils essayent de recapturer un certain... je sais pas moi.
Bout d'antan.
Ils essayent pas de recapturer. Ils ont juste vu que les gens en avaient un peu marre de binger et qu'ils avaient envie de séries à la semaine parce que les autres plateformes s'y sont mises. Donc ils se sont dit comment on fait pour pas dédire notre modèle tout en changeant un petit peu. Bon, on va découper les saisons en deux parties. Là où Apple TV ou Hulu ou Prime vont faire à la semaine. Mmh. C'est juste qu'ils se sont rendus compte que le modèle qu'ils avaient établi. Eh ben, il avait fait son temps et il fallait trouver quelque chose de plus adapté à ce que le public voulait.
Alors sur le chat, il y a une question débat. Et pourquoi revenir à une saison de 22 épisodes? Parce qu'on n'a déjà pas le temps d'en regarder 13.
Mais c'est faux. Oui. Parce que vous avez autre chose dans votre vie que les séries.
Il faut prendre le temps.
Choisissez les bonnes séries, tout simplement.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est une véritable question. Oui. On se demandait à quel moment on devait tester d'épisodes avant d'arrêter.
6.
3.
Ah non, mais moi, c'est 7. Donc,
Mais si la saison en fait 8.
Non, si la saison en fait 8, j'arrête au bout de 2, mais non, sur une saison...
Pour rata du nombre d'épisodes.
Voilà, oui, mais c'est ça. Sur une saison où je sais qu'il va y avoir potentiellement 22 épisodes, si au 7e, il n'y a pas eu quelque chose, un déclic où ça ne me prend pas au trip, j'aurais tendance petit à petit de mettre de côté, quoi.
Tu mens, tu regardes tout jusqu'au bout.
Surtout ils disent qu'ils n'ont pas le temps de regarder une saison de 22 épisodes, c'est parce qu'ils pensent que les 22 épisodes vont arriver tout de suite, encore une fois. Et c'est... sur l'année, en fait, t'as largement le temps de regarder 22 épisodes.
Parmi les séries les plus regardées sur Netflix ou sur Disney, c'est Friends, Seinfeld, Grey's Anatomy. C'est que des séries à 22 épisodes. Enfin, je veux dire, c'est juste que t'as le choix et tu l'as en face de toi.
Tu préfères regarder 3 épisodes de 20 minutes que un de 1 heure, ce qui est totalement... bizarre.
Non, je préfère pas. C'est juste que c'est plus facile pour moi de l'intégrer à ce moment-là. Ça dépend du temps. Par exemple, le soir, je suis incapable de regarder une sitcom. Pour moi, le soir, quand je suis dans mon canap ou dans mon lit, c'est une série d'une heure où je vais prendre le temps. C'est quelque chose qui me demande du temps aussi à assimiler. Alors que, enfin, c'est juste une question de mode de diffusion pour moi, quoi.
Et du coup, est-ce que on revient au problème d'écriture? Est-ce que c'est pas parce que l'épisode ne se suffit pas lui-même qu'on le continue? Est-ce que c'est des cliffhangers qui se disent...
C'est le principe de la série.
Bah après, j'ai envie de dire...
Non, parce que s'il y a un cliffhanger qui est un peu moisi, mais qui te fait dire, faut que tu regardes le suivant pour voir la suite, mais en fait, tu t'en fous. C'est juste de la curiosité, un peu malsaine.
Ouais, mais si je me fous de ce qui va se passer dans l'épisode d'après, c'est que je n'aime pas la série.
Oui, voilà. Il se passe rien 40 minutes, il y a un gros cliffhanger 5 minutes après. Après, 40 minutes, c'est Walking Dead. En
fait. Je reprends Grey's Anatomy, il y a des épisodes qui sont complètement creux pendant 42 minutes. Pourtant, je reviens après parce que je sais que j'aime, je sais que c'est une faute de parcours et que le prochain sera peut-être très bien.
Oui.
Peut-être.
Mais en fait, dans ce cas-là, on se pose même plus la question. On regarde tous des mini-séries et c'est bouclé.
Non, c'est des films découpés, donc non.
C'est une mini-série.
Voilà, c'est ça.
Combien d'épisodes d'une mini-série ?
8. Ouais, 6 à 8, ouais. Moi, j'irais jusqu'à 8.
Moi, j'irais jusqu'à 10, mais bon, après...
Oula.
Jusqu'à 2 fois 1h30.
Enfin, tant qu'il n'y a pas de...
L'Académie ne serait pas d'accord avec toi.
À l'époque, les mini-séries, c'était 2 fois 1h30.
Ouais.
C'était Merlin, ah, c'était les Domino Cœur, c'était les Langoliers.
Le 10e royaume.
Dinotopia.
C'était ça, il est revenu, c'était ouais. Stephen King.
Band of Brothers.
Oui.
Voilà. Oui, mais c'était 10 épisodes de.
Oui, mais c'est une mini-série.
Alors que maintenant, pour la même chose, tu ferais 8 épisodes d'une heure, où il se passerait peut-être pas grand-chose.
Pour moi, une mini-série, c'est une saison de autant d'épisodes que tu veux, mais elle est bouclée à la fin. Mmh.
Et si tu fais American pas
Horror
douter
Story est une mini-série.
Non, American Horror Story, non, on va pas.
Oui. Ah,
cherches.
Ah bah oui, mais voilà.
Bon, troisième partie, les solutions. Ah. Alors, qu'est-ce qui est mieux ? Une série de 8 saisons de 10 épisodes chacune ou 4 saisons de 22 épisodes ? Je crois que c'est le même nombre d'épisodes au final.
5 saisons de. 5 saisons.
5 saisons de The Good Place.
Non, 5 saisons, 4 saisons de 22 épisodes et une saison de 13.
Pour arriver à ça.
C'est là où. En fait, c'est que parmi mes séries préférées, c'est exactement le modèle. Person of Interest. Brothers and Sisters. Fringe, c'est parmi mes séries préférées et je trouve que c'est celles qui s'en sont sorties le mieux, qui sont parties à temps.
Firefly ? Ah non, pardon. Non.
Ben moi, je suis toujours preneur des saisons en 22 épisodes, hein, même s'il n'y en a que 4, mais je préférais qu'il y en ait 8.
Mais est-ce que, du coup, pareil, est-ce qu'il faut qu'il y ait un arc prédéfini, qu'à la fin de la saison, la fin d'un arc ou pas ?
Bah oui.
Il y a moins de saisons mais plus d'épisodes, donc est-ce qu'il faut des mini-arcs ou est-ce qu'il
faut... le terme de saison n'aurait plus aucun sens, oui, c'est en clair. Fait. Donc oui.
Et toutes les séries qu'on adore, ça se passe comme ça. The Good Wife, on est resté jusqu'au bout parce qu'il y avait des arcs dans la saison. Une arche narrative très globale sur l'intégralité de la série qui faisait qu'on revenait, mais à l'intérieur, on restait parce qu'il y avait le développement des personnages, le développement d'une intrigue. C'est pour ça qu'on restait. En 10 épisodes, ça devient un peu plus compliqué. Ou alors, tu viens pas voir la même chose.
Par exemple, pour Lost, quand ils ont réussi à avoir 2 saisons pour terminer, c'était 48 épisodes. Finalement, ils en ont fait 3. 3 de 16.
Ah oui.
Qui revient à 48.
Il n'y avait pas la grève ?
Il y a eu la grève aussi, ils ont rallongé. Mais en fait, ils avaient prévu 2 saisons de 24. Finalement, ils ont fait 3 fois 16.
Pas grave.
Oui, mais au niveau de l'écriture, c'est pas la même chose. T'as vraiment 3 saisons différentes. Bah,
c'est-à-dire qu'ils c'était plus rythmé, ils ont enlevé des épisodes filler comme, bon, comme on a.
Comme le tatouage de Jack.
Voilà, c'est ça. Oui, le fameux épisode du tatouage. Ou même de Paolo et Nikki qui servaient strictement.
C'est le meilleur épisode.
Non, bon, c'est pas grave. Pire épisode de toute la télévision.
Mais c'est trop bien.
Et c'est celui qui, quand même, capte l'essence du filler qui est vraiment tout pourri, que les gens détestent, mais vraiment. Mais 48 épisodes en 3 x 16 ou 2 x 24. C'est une histoire de rythme et ils savaient plus ou moins ce qu'ils allaient faire, donc en fait on les pardonne quoi, enfin d'avoir fait 3 saisons quoi.
Mais en fait t'as raison de parler de fillers parce que souvent ce sont des épisodes assez exceptionnels et c'est clair qu'en 10 épisodes s'il y a un filler, on se demande pourquoi j'ai perdu mon temps à regarder ça alors que la série aurait pu avancer à côté, alors que 22 épisodes tu dis oui ok
alors
bon,
que ça
je me perds
toujours, ça apporte toujours quelque chose un épisode filler.
Ted Lasso par exemple,
The Good Wife c'était ça, il y avait plein de fillers mais c'était des cas judiciaires. Et on les suivait avec plaisir parce que c'était très bien écrit. Mais pour autant, ça ne donnait pas forcément plus d'informations sur le personnage.
Ouais, mais quand on demande un épisode marquant de Breaking Bad, on parle de l'épisode de la mouche. Qui est un filler.
Ouais. Mais c'est vrai, c'est
super. Loin d'être mon préféré.
Parce que les fillers, c'est là aussi pour apporter autre chose que le feuilletonnant qui peut être chiant au bout d'un moment. Quoi.
Après... Même créativement, enfin, dans la mise en scène, tout ça, c'est tellement parfois dérangeant, voire décalé, que oui, c'est pour ça que ça marche.
Après, il y a une chose qu'on n'a pas dit depuis le début aussi, c'est que ça dépend d'où est-ce que c'est diffusé les networks. Leur modèle, c'est 22 épisodes et plusieurs saisons. Bon, ils
plus
sont
trop maintenant.
Plus trop maintenant, oui. Mais parce qu'ils se sont mis au pas du câble, qui faisait systématiquement entre 10 et 13 épisodes, c'est leur modèle à eux. Et parmi les plus grandes séries, on peut regarder tous les classements qu'on veut, la moitié viennent d'HBO ou d'IMC. Tu as cité Breaking Bad, on a cité Soprano, enfin on peut en citer plein. on venait chercher ça aussi, ces 13 épisodes d'une heure avec une thématique qui pouvait être très dure ou pas. Alors que chez les networks, on venait pas forcément chercher la même chose, on venait chercher quelque chose qui rassurait un peu notre quotidien ou qui nous faisait nous évader. C'est vraiment pas les mêmes modèles.
Moi, c'était un rendez-vous avec des copains, tu vois.
Aussi, ouais. Voilà.
Est-ce que c'est pas ça qui manque aussi? C'est des épisodes où on voit les personnages vivre, tout simplement, quoi. Par exemple, Sex Education, il pourrait faire beaucoup plus d'épisodes en voyant les personnages vivre des choses.
Je crois que la série qui capte le plus cette essence-là, c'est Gilmore Girls. Tu les vois vivre, tout simplement. Et tu vis avec elle semaine par semaine. Enfin, avant, c'était par semaine, par semaine, mais.
Saison par saison.
Ouais, et saison par saison. Donc, ouais, si. Et puis, moi, je suis un Gilmore, quoi, au final. Donc.
Il y a des séries qui sont tellement coincées dans leur feuilleton qu'ils ne peuvent pas faire autre chose.
Et non. Mais c'est ça qui est triste.
Mais est-ce qu'il ne faut pas changer ça?
Ah ben, moi, tu me demandes, tu me regardes droit dans les yeux, je te dis oui. Mais bon, après, c'est pas moi qui prends les décisions. Hein, donc, malheureusement.
D'autres exemples de séries qui peut-être auraient été condensées, ça aurait été mieux?
Bah, y a plein de séries que j'aime beaucoup qui auraient pu s'épargner une saison en plus, et pourtant ça reste mes séries préférées. Hein.
New Girl.
New Girl, j'ai beaucoup aimé New Girl, elle aurait dû s'arrêter deux saisons plus tôt. Voilà. Okay. Buffy contre les vampires, j'aurais bien enlevé une saison.
Pas la dernière alors?
Non, pas forcément, non, mais j'aurais bien resserré les choses. Gilmore Girls, il y avait des saisons à enlever. Les deux dernières.
La 7, ouais, je suis d'accord. Voilà. Ouais.
Même The Good Wife, en vrai, on aurait pu se passer de la 7.
Je pensais à The Good Wife aussi.
On aurait pu se passer de la 7, Stéphane.
Tu sors?
Non.
Tu sors?
Non.
Les 7 premières de Good Wife, ouais.
Oh non, arrête, oh là là.
Il y en a plein comme ça, il y a plein d'exemples comme ça de séries qui ont eu une saison beaucoup moins bonne, mais qui restent quand même excellentes.
Mais est-ce que la saison de trop, ça gâche pas tout? Par exemple, Scrubs?
Bah si.
The Office?
Non, The Office, non. La saison 8, t'as gâché les 7 saisons précédentes? Enfin,
la 9.
La saison 6 de Lost, t'as gâché Lost?
Non,
mais Lost, c'est bien de bout en bout, Lost. Donc,
Non, mais on peut. Une série qui est bonne sur la majeure partie de son temps et qui fait des erreurs, on peut lui pardonner. Enfin, c'est pas la saison 8
de Game of Thrones.
Oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire que t'as regardé la série juste pour voir sa dernière saison et t'as été déçu de la dernière saison. C'est débile. T'as aimé la série tout du long. C'est juste que la conclusion te déçoit.
Est-ce que la série est une destination ou un voyage?
C'est un voyage.
Mais la destination compte. Oui.
Oui.
Surtout pour Game of Thrones. Parce que là, la destination est vraiment un mur, quoi.
N'empêche pas que je pourrais recommander la saison 1 à n'importe qui les yeux fermés, parce que c'est extrêmement bien écrit. Ouais. J'ai été diverti comme jamais. Et peut-être que je leur dirais, faites gaffe, la saison 8, elle est pas ouf. Donc vous attendez pas à quelque chose de dingue. Mais en attendant, c'était quand même très bien.
C'est dommage, c'est la conclusion, quoi.
Mais je pense qu'on devrait normaliser les téléfilms de conclusion, en fait, pour les séries comme ça. Typiquement, un film d'1h30 aurait été très bien.
Jurisprudence timeless.
L'épisode dure déjà 1h30.
Mais il n'avait rien à voir, le film. Oui, c'est vrai.
Et du coup, la vraie bonne durée pour une série, c'est quoi?
Pourquoi t'as dit Secret Invasion?
Ne regardez pas ça, s'il vous plaît.
Ni la deuxième.
C'est juste un film qu'ils ont découpé comme ça.
Oui, sauf qu'ils vont en faire 40, donc 4. Donc,
Un previously de 5 minutes, un générique de 5 minutes. Et un générique de fin de 5 minutes sur un épisode de 30.
Ouais.
Et t'as 8 épisodes, donc ça fait un film. Secret Invasion, apparemment, c'est un long film.
Non, c'est même pas un film.
Et
en vrai, c'est pas un film.
C'était par rapport à la durée des épisodes. Quoi.
Non, Secret Invasion, c'est pas du tout un film. C'est juste une catastrophe industrielle. Enfin, ça a coûté 300 millions d'euros. C'est-à-dire plus cher que n'importe quel film Marvel qui est sorti au cinéma, à part le dernier Ant-Man. Donc c'est dire la qualité. Ça a coûté tout ça uniquement la production, il n'y a pas le marketing derrière.
Oui, le casting.
Donc ça a coûté plus de 500 millions pour quelque chose qui n'a aucun scénario, avec des acteurs qui cabotinent, et Dieu sait, il y a Olivia Colman dedans, j'avais envie de regarder. Enfin, c'est un accident industriel.
Mais du coup, toutes les séries Star Wars sont un peu des films manqués.
Oui.
Non. On a fait une émission là-dessus. Je vais pas revenir dessus, mais non.
Dessus.
Non, c'est pas des films. Ah non, mais c'est. Ah non.
En fait,
j'ai l'impression de me battre contre des moulins à vent, quoi.
Certains sont des films quand même.
Andor, par exemple. Non, Andor n'est pas un film. C'est la plus sérieuse.
Mandalorian et Andor.
Je mets aussi les séries Marvel, comme ça.
Oui, les séries Marvel.
Non, séries Disney.
On mélange pas les torchons et les serviettes.
Les séries Marvel, au moins, elles ont un sens. Tiroir, ouais. Mais si. Mais je sais que t'aimes pas, toi, mais bon, pour le coup.
Mauvais
non.
Sens,
ouais. Alors, les séries Marvel, leur gros problème, c'est qu'elles sont tellement dans une continuité qu'elles n'existent même plus en tant que série. Donc ça, c'est super chiant quand tu te dis j'ai envie de voir WandaVision parce que j'aimais bien le personnage, j'aime bien l'actrice et j'adorais le concept. Mais quand on me dit il va falloir que tu vois le film qui va derrière, plus la série qui va arriver, plus les trois films qui vont arriver derrière, non, flemme.
T'es pas obligé. Hein,
t'es pas obligé. WandaVision, tu perds quand même. Tu perds quand même d'une partie intéressante de l'intrigue parce qu'elle continue et le personnage continue.
Je trouve que c'est moins vrai pour les personnages emblématiques, style Loki. Là, t'as pas vraiment besoin de voir les autres films. La saison 2 de Loki, t'as rien besoin de voir.
Peut-être celle-ci, mais.
Si t'as pas vu Ant-Man 3, franchement, Loki, bon courage, quoi.
Si je dois rattraper des mauvais films pour comprendre des mauvaises séries.
Là, il y a The Marvels qui arrive au cinéma. Si t'as pas vu la série Mrs. Marvel, le mec, il va rien comprendre.
C'est parce que ça, sont des personnages moins emblématiques.
Non, le problème, c'est que si t'as besoin d'aller voir une page Wikipédia pour savoir ce qui s'est passé entre les deux séries, il y a un souci, quoi.
Alors, question sur le chat. Mandalorian n'a rien d'un film découpé, mais est-ce que ça a à voir avec une série Mandalorian?
Oui, un peu plus quand même.
Oui. Et Boba Fett?
On l'oublie, ça.
C'est un truc bâtard.
Dans quelle série, oui?
Non, c'est un truc bâtard, parce qu'ils ont fait 4 épisodes, c'est un truc un peu original, et puis après, ils ont fait venir tous les gens de Mandalorian pour conclure une intrigue qui se passait dans Mandalorian et que les gens n'auront pas regardé.
Et du coup, moi, j'ai vu la saison 3 de Mandalorian et j'ai rien compris parce que j'avais pas vu Boba Fett.
On arrive au terme du débat. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans le public sur des séries? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous aimez?
Est-ce que voulez-vous nous voir nous battre?
C'est régulier.
Ah oui.
Sinon, vu qu'on a un peu le temps, Maxime, la série qu'il faut voir en ce moment. Légalement.
Légalement. Ah merde. Et Cousin d'Amérique, ça marche pas?
Non.
Ok. Dernièrement, j'ai vu Bodies sur Netflix. Qui est pas parfaite, mais vraiment bien ficelée dans le style voyage temporel, etc., avec de très bons acteurs. Donc, je recommanderais Bodies.
J'aurais voulu que ce soit un peu plus équilibré au niveau justement de timeline, mais je suis d'accord.
Dans le futur, notamment.
Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment.
C'est une mini-série ?
Oui.
Oui. Eh oui.
Jusqu'à la saison 2.
C'est pas une mini-série, vu la fin de la saison 1, je suis désolé, s'il n'y a pas une saison 2.
Il y a une conclusion.
Ah ben j'ai rien compris, alors ok, voilà.
C'est un autre débat.
Récemment sur Canal, moi je vais parler d'argent et de sang, donc Xavier Dionali qui passe à la série, c'est sur la fraude à la taxe carbone, donc les événements de 2007 en France, et c'est franchement c'est excellent, c'est hyper, on sent qu'il y a la patte d'un cinéaste derrière, voilà. Et en comédie, on peut aussi, Parlement, oui, France TV, mais sur Arte, il y a Polar Park aussi. Donc Polar Park, qui est, j'ai oublié le créateur là. Enfin bref, ça se passe dans le Jura et c'est un auteur en syndrome de la page blanche qui va se retrouver devant un serial killer et c'est très très intéressant. Une ambiance un peu à la True Detective, Fargo, mais à la française. Voilà.
Et ça vient d'arriver sur Arte.tv et ça sera diffusé le jeudi 2 et le jeudi 9 sur Arte les jeudis soirs à 21h. Et donc, c'est avec Jean-Paul Rouve et Guillaume Glucks. Et comme dit Aki, c'est vraiment très, très bien. C'est très référencé. Et c'est un polar drôle. Voilà. Donc, franchement, moi aussi, je recommande chaudement. Ouais. Et en série française, donc Parlement saison 3, regardez Parlement sur France.tv.
Même si vous n'aimez pas la politique, ou surtout si vous n'aimez pas la politique.
Et si vous voulez comprendre un peu les rouages du Parlement européen, franchement, allez foncer. Moi, c'est 66-5 sur Canal+, une série d'Anne Landois sur une avocate qui repart dans son banlieue à Bobigny pour faire du pénal à Bobigny. C'est très bien, très naturaliste. Et franchement, moi, j'aime beaucoup.
Après, il y a des historiques aussi. Les Papillons Noirs que j'ai beaucoup aimé l'année dernière, qui
Arte
est
aussi.
Sur Arte et Netflix, qui est l'histoire d'un, c'est un thriller avec Nicolas Duvauchel et Nils Harrisrup sur un serial killer. Qui se fait interviewer par un journaliste. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
Moi, personne sur Ken Police Criminelle?
Non.
Avec Shame?
Non. Parce que... Ah, ça existe,
oui,
ça?
Oui. Non. Et il y a le mec de Battlestar dedans aussi, Jamie Bamber.
Ah, d'accord. Ok, maybe.
Arte est très très bon pour proposer des séries. Hein. Oh. Sous le contrôle, ça a divisé de notre côté.
Oui, bah, j'ai beaucoup moins aimé.
Je
l'ai vu deux fois.
Moi, je suis vraiment très mitigé aussi. Voilà.
Je l'ai vu deux fois. J'ai vu la première fois à Sérimania, sur la plateforme Sérimania, le festival des séries. Et une deuxième fois, la diffusion il y a 2 semaines, juste avant de faire l'enregistrement. Et la deuxième passe beaucoup moins bien que la première. Sous contrôle.
Pardon, c'était la série Sous contrôle, donc d'Arte, ouais,
avec Léa Drucker. Léa Drucker.
Mais alors moi, je trouvais que c'était pour la première fois qu'on faisait une véritable comédie politique à la française où on ne se moquait pas des gens. Et donc, j'ai apprécié l'humour que j'ai trouvé plus subtil que ce qu'on
peut. Et c'est de l'humour belge. C'est fait par un belge. Donc, c'est pour ça que c'est très particulier.
Oui. Alphonse.
No comment.
Alors, Alphonse, la série Nicolas Bedos, ça a été un débat de ce midi.
Il est arrivé sur Prime sans plus, sans rien.
Oui, parce que bon, c'est Nicolas Bedos, c'est problématique en ce moment, donc il faut
c'est
faire
pas
attention.
Qu'en ce moment, à un moment, on a des principes.
Il a toujours été
pas,
problématique.
Voilà. Oui, non, c'est vrai. Ben, je crois qu'au final, je suis le seul à le regarder autour de la table.
J'ai pas vu une seule seconde.
Voilà. Voilà.
Sans le contexte, est-ce que c'est une série quand même, enfin, tu vois, sans le contexte qui a
alors, on oublie Nicolas Bedos. Ça fonctionne pas tout le temps. Alors, c'est juste pour, voilà, juste pour dire deux, trois mots, c'est Jean Dujardin, ça va pas bien dans sa vie. Son père tombe malade, il découvre que son père était une prostituée de luxe qui couchait avec des petites vieilles et donc il va remplacer son père. Donc, Jean Dujardin couche avec des petites vieilles. Donc, voilà, déjà, ça part un petit peu, voilà. Il y a de très beaux moments. C'est assez poétique, mais après, c'est très raté. Voilà. Ça parle beaucoup trop de sexe. C'est pas forcément... Non, c'est gras. Très gras. Il y a de l'humour vraiment très bas de plafond. Enfin, c'est... Non, c'est pas très bon, quoi.
Oui. Salade grecque.
Salade grecque. Oui,
ouais, de l'auberge espagnole de Clapiche. Alors, mitigé, moi, on était mitigé là-dessus ouais, aussi.
Mitigé, mais j'allais plutôt du côté pas mal. J'ai bien aimé Salade grecque. Déjà, j'aimais bien retrouver le personnage de Romain Duris et celui de Kelly Reilly. Et celle de Cécile de France, même si elle apparaît pas beaucoup. Mais un peu de mal avec la... Je sais plus comment elle s'appelle... Mais l'actrice, celle qui joue la jeune, celle qui joue sa fille, alors que j'aimais bien...
Qui est militante.
Est militante, où je trouvais que parfois c'était un peu caricatural. Et elle est tombée dans une routine qui... Elle était un peu uniforme, en fait, et c'était assez dommage. Surtout quand c'est le seul personnage principal féminin. Mm. Et après, le personnage du fils, donc joué par Alyosha Schneider, la fratrie Schneider, ouais. J'aimais beaucoup. J'aimais bien le choc des cultures, le fait que... qu'il essaye de s'intégrer dans ce militantisme sans y arriver vraiment.
Clapiche a bien recapturé l'essence de la trilogie des films, hein, oui. Donc c'était bien.
Ouais. Voilà. Mais ça se sent, je trouve, qu'il avait une véritable envie de comprendre la jeunesse et le monde d'aujourd'hui via des yeux plus jeunes. Mais forcément, ça reste Clapiche, donc il est un petit... Enfin, lui, c'est pas un ado. Enfin, il est pas jeune, en fait, et je trouve que c'est un peu un manqué là-dessus. Et ça...
Sur quelle plateforme?
Prime.
Sur Prime. Donc, c'est pas dit qu'il y ait une saison 2, quoi.
Je suis même pas sûr.
En fait, c'est sûr. Ouais,
c'est sûr.
C'est sûr. Il me semble.
Ouais. Triste.
Voilà.
On nous dit que tu parles pas assez de Star Trek, Stéphane.
Il y a une question.
Oui. Ah, il y a une question?
Oui. Ah, bon.
Only Murders.
Alors, il faut écouter l'épisode précédent où on y a passé 10 minutes. Très bien. Enfin, bien. Un ventre mou au milieu
3,
de la saison.
Il y a trois saisons, là, actuellement, sur Disney+.
T'es à jour des trois saisons? Ah. Parce qu'il y a Meryl Streep dans la saison 3, et je te souhaite vivement de la découvrir.
Oui. Non, les deux premières saisons, vous avez adoré?
Ah non, oui, on a adoré. La saison 3 est un petit peu en dessous, mais...
Mais il y a Meryl
Streep. On oubliera, si... parce qu'il y a une saison 4 qui va être juste, a priori, exceptionnelle, vu ce qu'ils nous promettent. Donc voilà.
C'est quoi par rapport au chat, non? Il y a rien?
Non. Bon, c'était sur Star Trek, pour que Stéphane en parle.
Mais... Non, on va encore s'engueuler.
Non, j'allais dire, il n'y a que Maxime qui peut vraiment mieux en parler que moi. Donc,
Il y a eu un épisode musical, c'est tout ce qu'on aime.
Oui, voilà.
Star Trek Strange New Worlds, il faut regarder, c'est génial.
L'épisode 9.
Même pour les gens qui n'aiment pas Star Trek. Plus, ouais, voilà. Qu'ils ne connaissent pas
Surtout pour les gens qui ne connaissent pas Star Trek, c'est ma première incursion dans Star Trek.
Voilà, on a fait beaucoup de name dropping, désolé sur la fin. Là. Oui.
On mettra une liste.
Il n'y a pas d'autres questions? Alors, merci de nous avoir écoutés. Merci au public d'avoir répondu présent. Merci pour l'invitation. Pour nous retrouver, c'est sur toutes les plateformes de podcast, dont Spotify. On est également sur Twitter /X et sur Blue Sky depuis 14h. Merci à qui? Merci Stéphane. Merci Maxime. Merci les séries.
Merci
à tous. Salut.
Merci. Bye.